Les par actualité. C'est aujourd'hui, bien évidemment, j'imagine que mon ami vous en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est la journée internationale des bénévoles aujourd'hui, en ce 5 décembre 2016. D'ailleurs, je vais avoir Jacques Tremblay avec moi un petit peu plus tard à l'émission, lui qui est bénévole chez Vues et Voix. Aujourd'hui, au Paractualité, les titres, un message d'espoir pour des jeunes atteints d'une maladie rare, Shieldev Inc. et leur applique un partenariat qui fait du gros bon sens pour l'inclusion sociale, lancement des travaux de construction de la maison d'hébergement à Lac-Mégantic, une bûche de Noël philanthropique pour les jeunes. Et puis, le langage des signes pourrait devenir la troisième langue officielle du pays. Je vais aussi m'entretenir aujourd'hui avec Nathalie Lemieux, qui est la directrice de la maison d'accueil et d'hébergement Regard en Elle pour les femmes victimes de violences. C'est situé à Repentigny. On va beaucoup parler d'ailleurs de la couleur orange. Alors, un message d'espoir pour des jeunes atteints d'une maladie rare. C'est une nouvelle TVA d'après le reportage de Bénédicte Lebel. Il y a toujours de l'espoir, même lorsqu'on souffre d'une maladie très rare. C'est le message important qu'ont reçu des jeunes ce dimanche à l'hôpital Shriners de Montréal. Plus important encore, ils ont pu parler avec des adultes qui, malgré leur handicap, ont su prendre leur place. Les enfants présents souffrent d'arthrogrippose. Cette maladie touche un enfant sur 3000 et affecte les jointures et les os du corps. À la naissance, les enfants ont des contractures multiples de toutes les articulations, les membres inférieurs et parfois les membres supérieurs, explique Reggie Hamdi, le médecin-chef à l'hôpital Shriners. L'Institut de recherche en santé du Canada et l'hôpital ont organisé une journée ce dimanche pour réunir une trentaine de Canadiens atteints de la maladie dans le but de créer des liens entre eux. Être différent, c'est cool. C'est ce qu'on est en train de montrer aux jeunes aujourd'hui, a dit notamment un jeune garçon atteint de cette maladie. C'est pas d'excuses, pas de limites. Je crois qu'ils ont tous la capacité de réussir ce qu'on veut dans la vie, mais à notre façon. C'est cool de voir des personnes comme moi, parce qu'à mon école, c'est toutes des personnes pas comme moi, de dire la petite Alice, elle aussi atteinte de cette maladie. Même si la guérison est impossible, la physiothérapie, les chirurgies et les orthèses peuvent améliorer le quotidien de ces enfants et leur permettre de croire que tout est possible. Cela nous vient du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC, une grande avancée dans le dossier de l'accessibilité commerciale à Montréal, Shieldev 1 et le RAPLIC, un partenariat qui fait du gros bon sens pour l'inclusion sociale. Shieldev Inc. et leur applique sont heureux d'annoncer qu'au terme de discussions positives, ils sont parvenus à identifier et à mettre en place une série de mesures d'accessibilité pour plusieurs immeubles commerciaux à Montréal. Et au terme de leurs échanges, les parties ont identifié une difficulté d'accès au commerce et aux places d'affaires d'une artère commerciale où Shieldev détient plusieurs immeubles. Shieldev s'est conforté aux recommandations du RAPLIC et a convenu de prioriser les bâtiments dont l'entrée comporte une seule ou deux petites marches. Il nous arrive souvent de demander à un commerçant de rendre son entrée universellement accessible aux personnes à mobilité réduite, notamment celles utilisant un fauteuil roulant. Plusieurs nous disent qu'ils le voudraient bien, mais qu'ils ne sont que locataires du bâtiment et que dès lors, c'est aux propriétaires et gestionnaires de l'immeuble que nous devrions nous adresser. Et c'est ce que nous avons fait, s'exclame avec satisfaction Linda Gauthier, la présidente du RAPLIC. En agissant concrètement vers l'accessibilité commerciale, Shieldev et RAPLIC ont un impact positif, non seulement dans la vie des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, mais également dans celle des aînés et des parents avec poussettes d'enfants. Shieldev et RAPLIC sont particulièrement préoccupés par le vieillissement de la population et par le fait que d'ici 2020, près de 30% de la population sera à mobilité plus ou moins réduite. Le RAPLIC est ravi de pouvoir compter sur la collaboration de ce partenaire immobilier important dans la région de Montréal. De son côté, Shieldev est fier de maintenir que l'accessibilité n'est pas une dépense, mais un investissement dans l'inclusion sociale. Alors oui, c'est la journée internationale des bénévoles et nous, des bénévoles, eh bien, nous en côtoyons tous les jours ici dans les locaux de Vues et Voix, puisque vous savez que Canal M, c'est la radio de Vues et Voix. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que près de 350 bénévoles prêtent leur voix ou prêtent simplement leur temps pour écouter ceux qui prêtent leur voix à la lecture de livres qui ensuite vous sont délivrés gratuitement via le SQLA, le Service québécois du livre adapté en passant par BANQ de Montréal. Et ça, c'est vrai pour Montréal, mais c'est vrai aussi pour les régions. Hein. Absolument, tout le Québec est concerné et tout le Canada maintenant est concerné via le CAEB. Alors, parlons-en de ces bénévoles. J'ai invité Jacques Tremblay, que vous connaissez peut-être parce qu'il vient à l'occasion Bonjour. À l'émission « Des livres pleins les oreilles ». Bonjour Jacques.
Bonjour Clotilde.
C'est toujours un bonheur de vous recevoir. Jacques, vous êtes bénévole chez Vues et Voix depuis combien d'années?
Ça va faire 2012. Hein. Je réponds à l'africaine. Hein. Quel âge avez-vous? Je suis de 1972. Alors, vous faites ça depuis combien de temps? Écoutez, c'est commencé en 2012.
Ça
nous amène autour d'un peu plus de 4 ans, bientôt 5 ans.
Et vous êtes du genre, parce qu'il me semble que je vous vois beaucoup dans les couloirs, vous venez pas qu'une seule fois par semaine, vous venez...
Quand on lit un livre pour, oui. bon, pour Vues et Voix, j'ai réalisé très tôt que oui. de deux choses l'une... Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on est intéressé par le livre,
oui.
pour des raisons personnelles ou idéologiques ou philosophiques, on a hâte de connaître la suite de ce qu'on a lu le jour 1. Donc, on veut vient. Revenir oui, le plus souvent possible. Et quand on a moins d'atomes crochus avec la thématique abordée, que ça devient un service qu'on rend et dans lequel on se sent un peu moins engagé, émotivement, tout ça, on veut aussi... En finir, d'une certaine façon, parce que l'intérêt... Bon, alors, dans un cas comme dans l'autre, j'ai trouvé intéressant de venir au moins deux fois par semaine. Mm-hmm. Et ça permet, dans le fond, de se baigner davantage dans l'atmosphère de l'organisation, qui est une organisation fondée sur le bénévolat, comme vous venez de le dire, et dans laquelle ça donne le goût de s'engager.
Oui.
Ce qui fait que non seulement je suis bénévole lecteur, mais je me suis engagé depuis quelques semaines au conseil d'administration, donc à vouloir contribuer à faire progresser.
Et pour tout cela, d'ailleurs, on vous dit bravo, vraiment.
Bon,
mais... Est-ce que c'est indiscret de vous demander qu'est-ce que vous faisiez avant? Parce que là, vous êtes un homme à la retraite.
Oui, je faisais des enfants. Et mes enfants ont fait des petits-enfants. Et ça, j'ai commencé très tôt, donc vers l'âge de 19 ans.
À faire des enfants?
Ce qui fait que le bénévolat de ma jeunesse, parce que j'en ai connu un tout petit peu, le plus lointain souvenir de bénévolat, c'était à l'époque du cours classique, ça trahit mon âge, où des gens de bonne volonté offraient d'aller faire le ménage dans des maisons de familles défavorisées.
Okay.
Alors, ça, c'était un bénévolat de type basic dont on peut questionner la pertinence aujourd'hui, et même je la questionne, c'est-à-dire, c'est un bénévolat fondé sur la charité chrétienne à l'époque, et qui finalement donne plus de gratification à ceux qui offrent leur temps qu'à ceux qui reçoivent le service, qui est plus ou moins signifiant.
Oui.
Mais par la suite, le fait d'avoir des enfants, ça vous éloigne de tout engagement. Et maintenant, avec les petits-enfants, ça nous éloigne également. Ce qui fait que, mais dans le fond, je réfléchissais au bénévolat. Et on fait du bénévolat pour deux choses. Soit parce qu'on veut promouvoir des valeurs.
Mm-hmm.
Et donc, on s'engage dans... par exemple, je me suis engagé à la société Tai Chi. Parce que j'étais instructeur pendant quelques années. Et tout ça sur un mode bénévole. Toute l'organisation fonctionne sur le mode du bénévolat. Et c'est pour partager certaines valeurs de développement personnel, physique, social, etc. Mais ça, c'est on veut partager des valeurs. Mais à Vues et Voix, on veut mettre à contribution nos talents.
Ouais.
Et... comme j'ai travaillé dans le domaine... Bon, là, pour répondre à votre question...
Bon, je me disais, à un moment donné... Non, mais avec la voix que vous avez travaillé avec.
Oui, en 1966, 67, 68, j'ai commencé à travailler comme annonceur à Radio-Canada.
D'accord.
Mais c'est l'époque, vous savez, dans ces années-là où, avec nos compétences et tout ça, on pouvait faire n'importe quoi dans la vie. Alors, j'ai démissionné, moi, de Radio-Canada à l'âge de 24 ou 25 ans. J'avais autre chose à faire. puis, je suis devenu pigiste, etc. Mais je suis demeuré dans le domaine des communications toute ma vie, écrite et parlée. Et quand j'ai vu la retraite approché, je me suis dit, et que je m'ennuie de cette pratique de lecture, de collaboration avec le micro. Et si en plus je peux faire servir ce talent-là à des gens qui en bénéficieront.
Jacques Tremblay, vous avez deux petits-enfants qui sont là aujourd'hui avec vous.
Oui, ils ont l'air distraits, là.
Non, je ne sais pas. Oui, ça n'a pas l'air du tout, mais alors du tout de les intéresser, ce qu'on raconte.
Ils sont sur leur écran.
Mais vous êtes fiers de leur montrer ce que vous faites?
Et énormément, forcément, forcément. Alors, ils ont fait le tour, ils ont été accueillis par Isabelle, enfin, qui leur a fait faire le tour des studios. Et puis là, maintenant, ils connaissent la radio de vue et voix.
Voilà.
Alors, ils vont partir avec une connaissance complète.
Ça veut dire que ce sont certainement, je ne sais pas si Jean-Sébastien peut ouvrir son micro, mais ce sont peut-être des futurs bénévoles.
Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, Thomas, Tristan,
qu'est-ce que vous en pensez là? C'est le temps de parler là, dans le micro. Là.
Est-ce que ça te donne le goût de parler au micro, mais il faut que tu t'en approches?
Regarde,
est-ce que ça te donne
approchez-vous
le goût
les enfants. Est-ce que ça vous donne...
Un homme.
Alors, Thomas, est-ce que ça va te donner envie de faire de la lecture bénévole un jour?
Oui, quand même.
Oui, quand même. Est-ce que ça va te donner envie de lâcher ton iPhone pour un livre? Tu sais, un vrai livre. Est-ce que tu sais que ça existe encore, des vrais livres avec du papier?
Oui. D'ailleurs, j'en ai amené un.
Ah, ben bravo. Bravo, Thomas. Je suis bien fière de toi.
Alors, écoutez, et pendant ce temps-là, il y a Cyril qui lit ses bandes dessinées.
Ben oui.
Il est avec les vieux, lui. Il lit un Astérix.
Ben oui. Ben, il faudrait lui recommander aussi Gottlieb qui vient de nous quitter. Ça, c'était... Alors, cette activité, bon, évidemment, puis on va se laisser là-dessus. Vous en êtes fiers et vous avez raison. Et en plus, elle vous procure aussi beaucoup de joie. Il faut être honnête que...
Fondamentalement, ce qui est à la base de notre bénévolat, c'est une volonté de se réaliser.
Dans ce sens-là. Jacques Tremblay, c'est toujours un pur plaisir de vous parler. Je vous remercie de vous être déplacé exprès aujourd'hui parce que vous ne lisiez pas aujourd'hui.
Ben oui, mais ces enfants-là avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. C'est jour d'élection à Longueuil. Alors,
c'est
comme un congé pédagogique.
Ah ben oui.
Donc, c'est fait pour les grands-parents.
Alors, c'est papy. C'est papy? Comment? Papy? Pépé? Grand-papa?
Papé. Moi, je m'appelle Jacques, mais un de mes petits-enfants a un autre grand-père qui s'appelle Jacques aussi. Et donc, lui, il est venu plus tôt. Il s'est appelé Papy. Donc, ils ont dit l'autre Jacques, ça va être Papy.
Papy, ça me fait penser au Papy.
Exactement.
Ah, ben, Yves Montand, Manon des Sources, Papy. Alors, Jacques Tremblay, merci beaucoup et passez une très, très belle journée. Par actualité régionale, Alain Fauché écrit que le député de Mégantic, Ghislain Bolduc, accompagné du maire de Lac Mégantic, Jean-Guy Cloutier, a effectué l'annonce de la construction de la maison d'hébergement Lac Mégantic. C'est une résidence qui abritera 6 logements, dont 5 seront destinés à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce projet est une initiative de l'Association pour l'hébergement des personnes handicapées de la MRC du Granit. La construction de ce nouvel immeuble nécessitera des investissements de près de 675 000 $, des travaux qui seront financés par le programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Charles Baudouin dans la Tribune écrit pour nous qu'il existe déjà une bûche de Noël philanthropique pour les jeunes. En plus du bal salé, la Jeune Société, c'est un organisme, se consacrera dorénavant à une nouvelle tradition afin de continuer d'amasser des fonds pour différents organismes de la région. De concert avec le restaurant Savoroso, l'organisme qui regroupe 10 jeunes professionnels de Sherbrooke, y a présenté mercredi la bûche de Noël philanthropique qu'il a imaginée au cours des dernières semaines. Une bûche aux framboises et mascarpone aux saveurs de milkshake qui sera mise en vente jusqu'au 23 décembre. C'était bien important pour nous de créer notre propre saveur. La saveur, l'est frappée, ça rappelle l'enfance. On travaille pour les jeunes et on voulait que ça rejoigne le plus de monde possible. On est très content de ce que ça donne. C'est réjoui. L'instigatrice de la Jeune Société, Julie Tremblay. La bûche est en vente au coût de 35 $ et sur ce prix, 8 $ sont recueillis pour les 5 organismes sélectionnés, soit l'Académie du Trésor, le Gris Estrie, la Grande Table, les Enfants JOIA et la Fondation du Salésien. Alors, on espère vendre 500 bûches et amasser 4 000 $. La mission, ça demeure d'amasser de l'argent pour les causes jeunesse. Il y en a plusieurs qui nous ont sollicité, ce sont toutes des causes différentes. mais qui sont regroupés par une belle cohérence, soit les services aux jeunes. On a tendance à travailler chacun dans notre coin, mais de travailler ensemble, de ramasser de l'argent ensemble, ça fait de belles rencontres et de belles associations, et on comprend de plus en plus les causes des autres, ajoute Julie Tremblay. Elle est directrice de la maison d'accueil et d'hébergement Regard en Elle pour les femmes victimes de violences. C'est une maison d'accueil et d'hébergement qui est située à Repentigny. Elle s'appelle Nathalie Lemieux. Bonjour, Madame Lemieux.
Bonjour.
Je suis ravie de vous parler aujourd'hui. J'aimerais que vous nous présentiez un petit peu mieux votre... pour les gens qui ne vous connaissent pas du tout, que vous nous présentiez la mission et les services que vous offrez à cette maison d'accueil et d'hébergement Regard en Elle.
Oui, Regard en Elle. En fait, c'est une ressource d'aide et d'hébergement, comme vous avez mentionné, mais pour les femmes violentées.
Pour les femmes violentées.
Dans un contexte conjugal, avec ou sans enfants. Elles peuvent venir accompagnées de leurs enfants. Nous travaillons avec les femmes la reprise du pouvoir sur leur vie. Mm-hmm. Avec différents services, nous avons des services directs auprès d'elles, donc une ligne d'urgence 24/7.
Okay.
Des services individuels, de groupe, de rencontres de groupe, d'accompagnement divers, que ce soit auprès des services juridiques, administratifs, autant lors de l'hébergement qu'à l'externe, parce que nous offrons des services également auprès de femmes qui n'ont pas besoin pour l'instant des services d'hébergement pour une raison ou pour une autre. Donc, nous pouvons offrir les mêmes services aux femmes à l'externe ainsi qu'à leurs enfants. On existe depuis 27 ans. Malheureusement, le besoin est toujours aussi criant à ce jour. Depuis les 10 derniers, on a reçu plus de 12 600 appels sur notre ligne d'urgence. 10 dernières années, plus de 2430 demandes d'hébergement. Et malheureusement, nous avons refusé plus de 840 demande d'hébergement par faute de place. Ça veut dire qu'au moment de l'appel, nous n'avons pas de lit disponible. Et depuis les 10 dernières années, nous avons accueilli en hébergement seulement 794 femmes et 563 enfants, dont les besoins sont vraiment très grands.
Écoutez, honnêtement, ça me laisse un petit peu sans voix les chiffres que vous nous donnez en ce moment. Et ces femmes venaient toutes de la région de Repentigny?
Elles peuvent venir d'ailleurs également.
Elles peuvent venir d'ailleurs.
Pour des raisons de sécurité. Elles peuvent
Bien
venir
sûr.
De d'autres provinces.
Oui.
Donc, tout dépend de ce qu'elles souhaitent, les besoins en matière de sécurité.
Oui.
Des fois, elles veulent retrouver un patelin qu'elles ont quitté. Pour des raisons parfois en lien avec les enfants, c'est préférable parce que prendre ce genre de décision, c'est une décision très complexe. C'est quitter, oui, un conjoint, mais si jamais c'est le père des enfants, tant que monsieur n'a pas réalisé le problème qu'il a, le problème ne prend pas fin parce que madame quitte. Donc, si jamais il est le père des enfants. Et pour des raisons de stabilité, des fois, il est préférable aussi de maintenir les enfants dans la même école en autant que la sécurité ne soit pas compromise. Donc, il y a plusieurs
Bien
éléments
sûr.
À prendre en compte qui font en sorte que les femmes viennent de la région, viennent de la même MRC ou viennent d'ailleurs.
D'accord. Mais c'est un élément essentiel et important, c'est vraiment... La discrétion aussi, hein, c'est ça.
La discrétion est très importante pour des mesures de sécurité,
bien sûr.
Assurément, oui.
Bien sûr.
Mais avec la femme, le sentiment de sécurité, il faut le travailler pour qu'elle puisse le vivre par elle-même. Mm-hmm. Donc, entreprendre de nouvelles habitudes que tout citoyen, citoyenne devrait faire de toute façon, minimalement. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'on fait avec les femmes et les enfants.
Vous donnez des activités de sensibilisation à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que c'est et pourquoi?
En fait, s'occuper des femmes qui sont dans le besoin, offrir des services directement auprès des personnes dans le besoin, ça, c'est primordial. Mais si on veut changer les choses, si on veut enrayer le problème, si on veut augmenter la sécurité et les services auprès des femmes et des enfants, il faut travailler en parallèle avec des activités de sensibilisation, soit avec des projets de formation ou même des projets de prévention. Donc, ça s'intègre dans notre lutte pour atteindre une société non violente, égalitaire et juste.
Excusez-moi, allez-y, je vous ai interrompu, allez-y.
Donc, on va faire des activités autant auprès de la communauté, des différents intervenants et intervenantes, des activités plus de l'ordre politique. Les activités de sensibilisation, ça peut prendre la couleur de rencontrer des membres ou des travailleurs, soit d'un service public, parapublic. Oui. Ça peut aussi être de la formation pour mieux dépister auprès de travailleurs, travailleuses en service social, des policiers, policières, ou des activités directement avec le milieu scolaire, des groupes, des employeurs qui veulent mieux cerner pour avoir plus d'atouts pour dépister et mieux référer leur personnel dans le besoin, ou des activités auprès de la jeunesse.
Et en ce moment, il y a une campagne qui est mondiale d'ailleurs, qui s'appelle Oranger le monde, et vous y participez, c'est bien ça?
Oui, oui, mais en fait, c'est notre porte-parole, Alexandra.
Alexandra Bastien, c'est ça. Hein?
Qui est une artiste en art visuel qui est avec nous depuis 2011.
Alors, c'est quoi cette campagne-là? Parce que ça s'appelle Oranger, Oranger le monde. Alors déjà, pourquoi la couleur orange?
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le monde vient vraiment de l'ONU section femmes depuis plusieurs années.
D'accord.
Dans le cadre aussi des 16 jours d'activistes pour une société non violente auprès des femmes et des filles. Donc, Alexandra se questionnait par rapport à sa propre démarche artistique, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour permettre que les gens réfléchissent par rapport à la problématique de la violence conjugale. Donc, elle a eu l'idée de réaliser 8 vidéos, des capsules vidéo très courtes, mais sur 8 thèmes différents qui touchent la violence. Donc, briser le silence, violence psychologique, physique, il y a aussi l'isolement. Il y a 8 thèmes qu'elle a ciblés et elle a fait des petites capsules vidéo.
D'accord.
Elle a utilisé du théâtre, elle a utilisé le médium de l'art corporel.
Oui, j'ai vu ça à un moment donné, une personne qui s'est fait complètement peindre en orange, quoi, c'est ça?
Oui. Ça, c'était lors du lancement.
Bon, où est-ce qu'on peut les voir, ces capsules-là? Je m'excuse de vous interrompre encore, Alexandra. Nathalie Lemieux, mais l'heure tourne malheureusement.
Oui. En fait, les capsules sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les rejoindre via Alexandra Bastien, YouTube.
D'accord.
Sur aussi le réseau, le Facebook de Regard en Elle.
D'accord, parfait. Alors écoutez, ça c'est bien noté. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Il y a un manque inquiétant de financement. Rapidement, comment est-ce qu'on peut venir en aide à votre organisme Regard en Elle?
De différentes façons. Si vous allez sur le site Internet, il y a la possibilité via don.org, on peut donner via Internet.
D'accord.
Financièrement, on peut offrir aussi des objets. On peut voir selon les matériels que vous avez besoin, de la vaisselle.
D'accord.
Donc, nous, on répond aux besoins immédiats des femmes à leur arrivée et lors de leur départ. À ce moment-là, il s'agit de téléphoner au 450-582-6000 et on va évaluer si on a la place pour entreposer les dons de matériel.
572-6000, vous avez
582-6000.
Dit? 582-6000. 582-6000. OK.
Oui.
Écoutez, on va mettre tout ça sur notre site Internet et je suis obligée malheureusement de vous laisser, Nathalie.
Non, ça va.
Mais je suis contente qu'on ait fait connaissance avec vous et avec Regard en Elle et on aura l'occasion de vous reparler ici sur les ondes. D'accord?
C'est parfait, je vous remercie.
Je vous en prie, Nathalie, passez une belle fin de journée.
Vous également.
Au revoir.
Au revoir.
Trouvé sur le site de Radio-Canada, la langue des signes pourrait devenir la troisième langue officielle du pays. Le gouvernement fédéral envisage de désigner une troisième langue officielle, la langue des signes. Selon une note obtenue par la presse canadienne en vertu de la loi sur l'accès à l'information, Ottawa se penche sur sa reconnaissance en Nouvelle-Zélande, en Écosse, en Finlande ainsi qu'en Suède. La note a l'intention de la ministre responsable des personnes handicapées, Carla Caltro, souligne que dans un passé pas si lointain, la langue des signes était interdite dans les salles de classe. Les Canadiens sourds, malentendants ou qui communiquent ainsi par choix ont recours à la langue des signes québécoise, la LSQ ou sa version américaine, l'ASL. Si les libéraux vont de l'avant, tout service fédéral devra être assuré en français, en anglais et en langue des signes. Lorsqu'elle a été interrogée sur le sujet jeudi, Mme Caltrow a dit de vouloir se pencher sur les obstacles à l'inclusion des Canadiens ayant un handicap ou une limitation d'activité. J'ai envie de vous parler d'une jolie petite bouille de Noël. Cette jolie petite bouille de Noël, c'est celle du petit Milo. Nous sommes en France. Il a un sourire, ce petit Milo déguisé en Père Noël, à faire craquer à tout le monde. Et d'ailleurs, il a fait craquer tout le monde parce qu'il vient de remporter un premier prix lors d'un concours de photos. Mais Milo, c'est pas n'importe qui. Milo, il a presque 10 mois. Ce nourrisson est porteur de la trisomie 21. Et il a déjà sa page Facebook, ça s'appelle « Dans les yeux de Milo ». Son but, modifier le regard de la société sur des personnes atteintes de cette anomalie chromosomique. En remportant le concours face à d'autres bébés dont la majorité ne souffre pas de handicap, Émilie, la maman, considère qu'elle a atteint son objectif. Elle explique au Huffington Post, où j'ai trouvé ce papier écrit par Annabelle Benheim. Elle explique donc cette maman avoir eu à cœur de montrer qu'un enfant porteur de trisomie avait sa place parmi tous les autres et méritait de la visibilité. La trisomie reste tabou en France, poursuit la jeune femme de 35 ans. Moi-même, j'étais bourrée de préjugés avant d'avoir Milo. Aujourd'hui, si on s'en donne les moyens et qu'on veuille bien nous aider, c'est une situation vivable. Il faut avoir le courage de se battre au quotidien pour obtenir des intervenants en psychomotricité, en orthophonie ou des gens qui les accompagnent en milieu scolaire. Si vous voulez aller voir la belle bouille de Noël de cet enfant-là, vous pouvez aller sur Facebook si ça vous tente. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être abonné. Dans les yeux de Milo, voilà, c'est le nom de l'adresse Facebook. Activité découverte du Cécifoot dans le cadre d'un reportage d'Ami Télé, l'Association sportive des aveugles du Québec, la SAC, invite la population voyant, malvoyant et non-voyant à expérimenter le Cécifoot. L'activité sera accessible aux personnes âgées de 14 ans et plus. Le cours inclura des échauffements, des exercices techniques et du temps de jeu. Le Cécifoot ou soccer adapté est une adaptation du soccer régulier pour être accessible aux personnes ayant une déficience visuelle aveugle ou vision partielle. Ça aura lieu le 7 décembre 2016 de 18h à 19h30 à l'école Joseph Charbonneau de Montréal au 8200 rue Rousselot. C'est gratuit. Pour information, j'imagine que si vous faites asac.com, A-S-A-Q, vous allez trouver tout le nécessaire. Voilà, c'était les paractualités du 5 décembre 2016. Passez une belle journée. À demain.